Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une jeune femme qui a horreur du vide. Elle a besoin de toucher à tout, de découvrir beaucoup de choses au point de passer par un accident. Mais finalement, le goût du risque, le goût de la découverte reste malgré tout.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Maryam El-Harichi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Maryam ?
Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée aussi. Et de mettre en avant des parcours de femmes. C'est quelque chose qui nous manquait au Maroc et ça fait plaisir de voir ce genre de programme.
Eh ben merci beaucoup. Moi, l'un des plus beaux compliments que j'ai pu avoir dernièrement, ça a été de dire par une des femmes que j'ai interviewées que c'était bien de mettre aussi en valeur et mettre la lumière sur la vulnérabilité de la femme.
Ah, magnifique.
Ça, j'ai trouvé magnifique de se dire, on a un espace, on a le droit d'être nous, d'être femmes, d'être des êtres humains, des femmes fortes, mais aussi des femmes vulnérables, parce que la femme forte ne peut pas dire qu'elle n'est pas vulnérable à des moments de sa vie aussi.
Moi, je pense que la force, la vraie force, après, ça vient de la vulnérabilité. En fait, c'est quand, parce que pouvoir être vulnérable aussi, dans sa vie au quotidien, c'est un signe de force. Donc, je les vois comme quelque chose de complémentaire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de livres aussi qui parlent du pouvoir de la vulnérabilité à tisser, à créer des liens. Parce que, on parle un langage qui, en fait, les émotions qu'on ressent quand on est vulnérable, elles se ressemblent. Donc, quand on exprime notre vulnérabilité, on tisse des liens plus forts, plus authentiques avec les gens. Et ça crée que de la magie par la suite. C'est magnifique.
Alors, justement, toi, Maryam, c'est une vulnérabilité. C'est un gros accident que tu as utilisé ensuite pour véhiculer tous ces beaux messages que tu n'as pas essayé de cacher. Qu'est-ce qui s'est passé, Maryam, il y a quelques années ?
Ça fait un petit moment, là. Moi, j'ai eu un accident quand j'avais 6 ans.
Voilà, ça fait quelques années.
Une vingtaine d'années. Donc, quand j'avais 6 ans, j'ai été brûlée. Brûlure de 3e degré. Pendant que je jouais avec des bougies.
Ok.
C'était une activité que... Je pense que mes parents n'étaient pas au courant, mais c'était quelque chose qui m'intriguait. Et j'ai toujours été un peu créative dans un autre sens. Et donc expérience de brûlure, de grande brûlée, plusieurs opérations, plusieurs mois. J'ai passé une grande partie de ma vie à visiter des médecins, que ce soit pour des parties fonctionnelles ou esthétiques. Et aussi, je garde toujours une grande partie de mes cicatrices, parce que c'était un peu plus de 30% de mon corps à l'époque.
D'accord.
Des greffes de peau, Et donc...
Tu étais toute seule ce jour-là, quand tu jouais ?
Ouais, j'étais toute seule. Après, y a ma petite sœur qui était venue et qui a vu l'accident, qui avait 2 ans à l'époque. Et c'était elle qui a appelé mes parents, ce qui a fait que j'ai été prise en charge. Ce qui est difficile, moi, là, directement, quand tu m'as posé la question, j'ai vu le côté scolaire. Mais pour un enfant, c'est le côté social.
Bien sûr.
C'est quelque chose qui, surtout quand c'est des cicatrices qui sont visibles. Moi, j'étais brûlée au niveau des bras, j'ai quelques cicatrices au cou et au torse. Et donc, c'est des cicatrices plus ou moins visibles, surtout en été, beaucoup plus. Alhamdoulilah, j'ai rien au visage, mais bon... Ça reste et donc pour un enfant, you stand out, tu vois, tu es différent, il y a quelque chose de différent, et c'est ce qui pourrait peut-être rendre les choses un peu plus difficiles. Après, honnêtement, pendant primaire, vu que c'était on était dans un milieu, école,
tout le monde se connaissait,
on a grandi ensemble et il y avait beaucoup de bienveillance, je dirais. Là, après, c'était le changement quand je devais partir au collège, un nouvel environnement, des gens que je connaissais pas, une adolescence. Et donc là, il y avait d'autres questions qui se posaient le jour où je devais sortir de ma zone de confort. Et là, peut-être au début, je me rappelle, j'ai essayé de cacher un peu pour ne pas voilà, attirer l'attention dès le début. Mais c'est vite passé. Hein. Je pense que je me suis assumée assez rapidement. Je me pose toujours la question aujourd'hui parce que j'ai pendant... Et c'est une question que, dont je parle aujourd'hui dans ce que je fais aussi. Alhamdoulilah, je pense que j'ai assez bien vécu ce que j'ai vécu. Ça m'a juste poussé encore plus. Ça m'a poussé à être plus authentique. Ça m'a poussé à avoir une personnalité plus forte. Ça m'a poussé à voir la vie différemment et voir à l'au-delà de tout ce qui est matériel et physique aussi. Parce que une fille de à un certain âge, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, on se définit surtout, moi, là où j'ai grandi, par voilà, la beauté physique et tout ce qui vient avec. Et moi, j'ai appris aussi à développer un sens de caractère, une personnalité, parce que, je sais pas, je me suis dit que je ne vais pas me définir juste à travers mon corps, mais aussi à travers autre chose. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée à poursuivre tout ce que j'ai voulu faire pendant ma vie.
Le théâtre notamment.
Le théâtre, exactement. Bon, le théâtre, c'était, ça fait partie de plusieurs choses. Alors moi, oui, grand brûlé, mais j'ai aussi genre un côté atypique dans le sens de personnalité où j'ai toujours voulu tout essayer. On appelle ça zèbre aujourd'hui, parce que j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans. Mais c'est juste certaines personnalités qui aiment tout faire. Donc moi, j'ai toujours voulu essayer plein de choses. Et le théâtre, quand je suis rentrée au Maroc après le Covid, je cherchais une activité stimulante où j'allais rencontrer des gens sympathiques, où aussi j'allais me découvrir. Et donc j'ai décidé de faire du théâtre. Et ce qui était supposé être juste voilà, des cours, après mener vers autre chose. On a fait des tournées avec la pièce de théâtre de Mejnoun. Et voilà, c'était une très très belle aventure.
Alors justement, aujourd'hui, la jeune femme que tu es n'essaye pas du tout de cacher ses cicatrices. Au contraire, tu les mets en valeur, tu les mets en avant.
Exactement. Je les ai toujours mis en avant, pas complètement. C'est ce que j'ai réalisé il y a 2 ans. Je pensais que j'étais complètement, je n'avais aucun problème avec mes cicatrices. Jusqu'à il y a 2 ans que j'ai découvert que je montrais les cicatrices que j'avais sur mes bras. Mais il y en avait d'autres avec lesquelles j'avais plus de mal, notamment sur la partie du torse. Et c'est quand j'ai découvert ça, et j'ai découvert que tout ce que j'achetais comme vêtements, en fait, couvrait cette partie, que j'ai pensé commencé à les mettre un peu plus en avant pour aller à l'au-delà de cette peur qui était inconsciente et qui s'est conscientisée à un certain moment. Et quand je l'ai fait, moi, à la base, je l'ai fait pour moi, mais j'ai réalisé que ça avait beaucoup plus d'effet sur les gens que j'en avais sur moi. Parce que je reçois souvent des messages, ou surtout quand j'ai posté une certaine photo sur Instagram, de gens qui ont aussi des cicatrices, qu'elles soient visibles ou pas visibles, et qui ont aujourd'hui du mal à les assumer. Et quand ils voient d'autres personnes assumer leurs propres cicatrices, on va dire, ça les encourage eux-mêmes à faire le pas et aller à l'au-delà de cette peur d'assumer qui en est, d'assumer... de s'assumer totalement et complètement.
Alors assumer qui on est malgré les accidents de la vie, justement toi, comme tu l'as très bien expliqué, grande brûlée à l'âge de 6 ans à cause d'un mauvais jeu d'enfant, comme on dit. Mais en même temps, est-ce que le regard des autres permet de faire ce travail, permet de s'assumer?
Ça dépend de sa perception. On peut voir que le regard des autres... En fait, on pense que ce qui nous fait peur, c'est le regard des autres. Mais moi, je pense que le regard des autres dépend essentiellement du regard qu'on a vers nous-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui portent les mêmes cicatrices, au moins des cicatrices, et qui ne les assument pas. Et donc, ils ont peur d'être jugés par le regard des autres. Et donc, ils voient du jugement parce qu'ils ont peur de ce... Et ils ne s'assument pas. Donc, potentiellement, ça va pousser les gens à les juger parce qu'ils voient au-delà des cicatrices, je vois aussi quelqu'un qui ne s'assume pas dans ce qu'il est. Mais une fois on s'assume, la perception des gens, elle change complètement et il y a plus, un peu plus d'admiration parce que je pense, on ne le fait pas pour être admiré, mais ça vient automatiquement parce que les gens, chaque personne, je pense chaque personne sur Terre a une cicatrice. Je ne parle pas de cicatrice que visible, physique.
Oui, absolument.
Chaque personne a une histoire, chaque personne a un passé, chaque personne... Et donc, on a tous envie de cette liberté de pouvoir juste être qui on est et l'assumer pleinement et ne pas avoir peur d'être rejeté pour qui on est. Et donc moi, je pense que c'est une équation à double... Voilà, vraiment, le regard des gens, ça dépend de nous. Si nous, on s'assume, le regard des gens, il est différent, il est encourageant, il nous aide juste à nous assumer encore plus. Si nous, on s'assume pas, avoir des gens qui nous regardent avec un regard paisible, ça nous fait du bien. Mais en général, on a souvent tendance à ne voir que les gens qui nous jugent. Et donc, ça fait que ça nous renferme un peu plus.
Mmh. On dit souvent que celui du milieu aussi a du mal à trouver sa place.
Ouais, en fait, ce que je fais, parce qu'en fait, j'ai travaillé aussi avec des enfants à certains moments et tout. Et je vois que quand on est aîné, au moins, on n'a pas à faire d'effort pour trouver sa place. La place, elle est là. Il y a du regard, il y a de l'attention, et elle est complètement, focalisée sur le premier bébé, ce qui est tout à fait normal. Le deuxième, en général, il y a déjà de la concurrence, et on a tendance à trouver que les deuxièmes ont des personnalités un peu distinguées, parce que c'est un instinct de survie, je ne sais pas, qui pousse les deuxièmes à faire leur place et donc à avoir une personnalité un peu plus distinguée, je veux dire. Mais je pense qu'il y a aussi ça, peut-être.
Alors justement,
On
dit que c'est une place compliquée.
Comment ?
On dit que c'est une place compliquée.
C'est une place compliquée ? Oui, alors moi, par contre, c'est un truc que j'ai réalisé il y a 2 ans, aussi. Oui, 2 ans, je pense que j'ai réalisé beaucoup de choses. Mais c'est une place assez compliquée en général. Mais quand on est un enfant malade, peut-être que ma sœur a une place plus compliquée parce qu'elle était plus petite que moi, mais qu'elle n'a pas eu l'attention qu'elle devait avoir parce que moi, j'étais malade à côté. Et donc, j'ai quand même eu de l'attention vu ma situation médicale.
C'est vrai.
Donc, et ça, honnêtement, c'est un truc auquel j'ai jamais pensé jusqu'à il y a quelques années. Donc, c'est juste peut-être une petite pensée aux parents qui... Il y a un film, d'ailleurs, je me rappelle plus du nom de l'acteur. Et c'est un petit enfant qui naît avec une malformation dans le visage et qui souffre toute sa vie, qui n'est pas bien accepté à l'école. Et il a une grande sœur à côté. Donc tout le film tourne autour de l'enfant. Et à la fin, on montre qu'aussi il y a une sœur qui souffre.
Absolument.
Parce que toute l'attention des parents, elle passe au petit qui en a besoin. Mais on oublie qu'il y en a un autre qui a peut-être moins de problèmes, mais qui reste aussi un enfant qui a besoin d'attention. Moi, je pense que mes parents ont quand même fait un bon travail. Ils ont donné de l'attention à tout le monde. J'ai jamais été victimisée à la maison. Ça veut dire que et en avance, j'avais les mêmes attentes. Je devais réussir aussi à l'école. Je devais aussi avoir, j'avais pas de privilèges, on va dire, très, très distingués par rapport à mes frères et sœurs. Ce qui m'a poussée, moi aussi, Je ne me suis jamais sentie, victimisée dans ma famille. Donc, ils ont aussi donné du temps à ma sœur, à mon frère. Mais c'est pour ça que j'ai dit, mon parcours de deuxième, il est un peu différent d'un parcours, on va dire, normal. Mmh.
Mais c'est vrai que c'est important de relever ce point parce que quand on a un enfant malade dans la fratrie, toute l'attention va sur l'enfant malade et les autres... Il y avait la petite sœur, mais il y avait aussi le grand frère. Donc,
il y avait le grand frère, oui.
Aussi. Alors, Marie Melhareshi, quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous pensez rester dans le domaine de l'art, justement?
Alors moi, entre-temps, je suis entrepreneuse. Je me suis toujours intéressée à l'humain. Globalement, on peut appeler ça, pratiquement parlant, je m'étais intéressée à la psychologie et à l'éducation. L'éducation, j'avais travaillé dans beaucoup de domaines pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'on peut, de quoi est-ce que l'être humain a besoin pour vivre une vie, comment on dit en anglais, fulfilled, tu vois, épanouie, avoir une bonne qualité de vie. Entre le milieu, j'ai fait du travail social avec des organisations internationales, sur tout ce qui est leadership. Après, j'ai bossé un peu avec les écoles pour voir le rôle de l'école. Par la suite, j'ai bossé dans l'art. Et donc, que ce soit en tant que... Voilà, j'ai fait du théâtre moi-même et j'ai aussi travaillé avec des artistes sur de la curation d'événements. Et par la suite, il y a un élément, en fait. Après le Covid, je suis rentrée au Maroc après un long voyage. J'étais en Asie. J'étais bloquée pendant 6 mois et je suis rentrée, parce que les frontières...
6 mois bloquée.
Ouais, bloquée parce que le Maroc a fermé les frontières automatiquement en mars. Finalement, j'ai trouvé un contrat de travail pendant le Covid avec l'UNICEF en Turquie. Donc, j'ai travaillé aussi en tant que consultante sur tout ce changement qui devait se passer dans le milieu de l'éducation ou la digitalisation des programmes aussi. Et donc, j'en ai profité autrement et je voulais rentrer parce que je me faisais beaucoup de soucis pour mes parents. Donc, dès qu'ils ont réouvert les frontières, j'ai été rapatriée au Maroc, mais je savais que je n'allais pas pouvoir ressortir du territoire. Parce qu'on pouvait revenir, mais on ne pouvait pas sortir. Les frontières étaient toujours fermées. Et donc, je suis rentrée, j'ai vu mes parents, ils me disaient que ça s'est bien passé, je travaillais à distance. Mais il y avait quelque chose qui manquait parce que moi, entre-temps, depuis toujours, l'un des environnements ou le seul probablement où je me sentais pleine et épanouie, c'était quand je voyageais. Donc j'ai toujours admiré la diversité des cultures et l'expérience du voyage. J'ai habité dans plein de pays où je changeais à quelques pays et après j'ai voyagé dans d'autres. Et en rentrant au Maroc, j'ai dû revenir à ce qu'on va dire un rythme de vie assez standard. Et j'ai trouvé beaucoup de mal à faire ça. J'avais eu l'instinct de partir trouver un billet d'avion pour voyager, mais me rappeler que c'était plus possible. Et donc à un certain moment, ça devenait un peu pesant pour moi et je devais trouver une solution parce que j'ai commencé à développer de l'anxiété. Donc il y a un jour où j'ai pris mon carnet et j'ai commencé à écrire pourquoi est-ce que le voyage était tellement important pour moi et ce que ça représentait. Et j'ai réalisé que finalement le voyage c'était une expérience humaine qui me permettait de rencontrer et de tisser des liens authentiques en parlant d'authenticité. Il y a quelque chose qui se passe quand on voyage, quand on rencontre des gens, on se dit on va peut-être plus jamais les voir. C'est aussi des rencontres très spontanées et c'est aussi des gens qui sont assez conscients de par les voyages qu'ils font aussi. Et donc les discussions qu'on a avec ces gens-là, c'est des discussions très assez profondes, authentiques, qu'on n'a pas forcément au quotidien quand on ici, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et donc, c'était ce côté-là qui me manquait le plus, le fait de tisser des liens authentiques. Le deuxième aspect, le voyage me permettait d'être constamment dans la découverte et de stimuler mon esprit. J'apprenais de nouvelles choses à chaque fois. Et ça, c'est un besoin que j'ai aujourd'hui. Et le troisième élément, c'était les espaces. En fait, quand on voyage, on choisit consciemment des espaces à visiter parce qu'ils sont beaux, que ce soit en pleine nature ou là que ce soit une belle architecture. Et donc, quand j'ai réalisé ce que le voyage voulait dire pour moi, je me suis dit que si c'est des rencontres authentiques et de la découverte et des lieux, je n'ai pas forcément besoin de voyager pour le faire. Peut-être que je peux commencer à créer des expériences ici qui peuvent me permettre de rassembler ces trois éléments-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé un projet qui s'appelle The Process. The Process parce que c'est mon propre process d'épanouissement et parce que aussi, il va mettre en avant plusieurs autres process de personnes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher des personnes qui étaient passionnées par un domaine bien précis et que je trouvais authentique et les mettre en avant à travers des expériences d'atelier. Donc, ça veut dire juste c'est des expériences pratiques. C'est pas juste du storytelling ou raconter leur histoire, mais c'est aussi raconter l'histoire et permettre à d'autres personnes de mettre la main à la pâte et d'essayer concrètement ce qu'ils font. Donc, on a commencé par inviter des artistes ou des personnes créatives marocaines au début. Par la suite, ça s'est développé un peu vers le culinaire. On a fait des expériences voilà, autour du monde du café avec une grande chaîne de café sur international. On a fait des expériences autour du chocolat et comment tout le processus du chocolat avec une jeune pâtissière d'origine jordanienne qui habitait ici au Maroc. Et après, ça a pris d'autres dimensions et on a même lancé récemment des séjours immersifs, donc de 2-3 jours, avec un amateur astrophysicien marocain qui vient nous expliquer plein de choses autour de l'astronomie. On a fait des observations d'étoiles, on a fait des séjours avec un ex-champion équestre marocain pour découvrir le monde du cheval pendant 3 jours. Et l'objectif principal de tout ça, encore une fois, c'est les participants, quand ils viennent, de leur offrir un espace où ils peuvent tisser des liens authentiques. Donc, on a toute une partie où on crée une communauté à travers des questions, à travers des ateliers qui se passent dans chaque expérience, de découvrir de nouvelles choses, sortir voilà, de cette routine où aujourd'hui, je pense qu'on arrête d'apprendre à un certain moment et on arrête d'être stimuler, donc offrir cet aspect-là aux gens, leur permettre de grandir chaque jour. Le troisième élément, c'est aussi découvrir des espaces très sympathiques qui peut-être sont juste à côté de chez eux, mais qu'ils ne connaissaient pas auparavant.
Et tout ça, vous arrivez à en vivre, Mariam ?
Alors, très très bonne question. Au début, quand je l'ai fait, ce n'était pas l'objectif principal. Donc, l'objectif, c'était moi-même déjà de nourrir mon âme à moi. Après, à un certain moment, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes à qui, voilà, qui avaient le même besoin et qui avaient soif de la même chose, pour la même chose, et qui croyaient aujourd'hui en ce modèle, j'ai décidé de consacrer mon temps pleinement. Aujourd'hui, est-ce que j'en vis pleinement? Non. Mais c'est comme tout projet entrepreneurial, on ne vit jamais dans la première année d'un projet, parce que l'idée, c'est vraiment d'instaurer les bases. Maintenant, ça fait un an, presque un an et demi. On a fait plus de 50 expériences, plus de 500 participants. C'est quand même un projet voilà, qui n'est pas déficitaire, qui s'autofinance aussi, ce qui est superbe. Mais voilà, il y a de l'investissement à faire pour pouvoir le mener à un stade où c'est vraiment un projet dont je pourrais vivre et dont d'autres personnes aussi pourraient vivre. Donc voilà.
Ben Mariam Al-Harichi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, d'avoir pris de votre temps et d'avoir échangé avec nous sur voilà, comment vous voyez votre vie, comment vous la vivez et comment vous avez envie de la transmettre aux autres aussi.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.